Vous écoutez Radio G sur le 101.5 FM et c'est maintenant l'heure d'aller arpenter ces fictions de bien mauvais genre que nous affectionnons tout particulièrement. Il va y avoir aujourd'hui du noir mélancolique, de la jungle urbaine et du policier ethnologique et violent. C'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir. Et maintenant, générique maestro. Calibre 58, c'est aujourd'hui Luc Douin et moi pour quelques nouvelles fraîches et noires du monde qui va comme il peut. Au sommaire de cette émission, une interview de Patrick Pêchereau à l'occasion de la sortie de son roman « Pour tout bagage » qui revient sur des événements qui se sont déroulés en 1974. Pour son voyage en exergie, Luc s'arrête dans l'Afrique du Sud d'Eon Meyer, auteur de « La proie », un thriller, ou polar, c'est selon, qui reprend certains codes de l'énigme ferroviaire. Enfin, nous plongerons dans l'univers de John Cassavetes à l'occasion de la nouvelle parution de Gloria, un road movie urbain entre un couple atypique et des gangsters de la pègre.
Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fortiche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur rappliquait en murmurant sa cloche. Je sais pas où il est passé. Arthur, où t'as mis le corps quand c'était crié en cœur? Mais je sais plus où s'il est foutu le mec. Arthur réfléchit non de là, c'est une certaine importance. Que c'est qu'il est mort? Dans les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort, je me rappelle plus où Dieu je l'ai mis. Belle marchande d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on a trouvé moins bonne. On a loupé un tournant, et on se retrouve en plein, au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas, et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas, oh ya, oh, oh.
Arthur, t'as mis le col,
murmuraient les inspecteurs. Bah, c'est vrai, où je l'ai foutu, le mec.
Arthur réfléchit, non de l'homme. C'est une certaine importance.
Que c'est qu'il est mort, ça? Ah, ça, il est mort, ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort, je me rappelle plus où que je l'ai mis. Alors, comme ça, y a plus de preuves, hein?
On a écopé 10 ans, c'est plus que suffisant pour apprendre la velote. On pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cognait plutôt mou pour pas trop qu'il s'étiole. Mais en nous-mêmes on pensait, Arthur se paye notre fiole. Il nous fait tous marcher.
Tu vas causer, oui.
Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours, on lui demandait. Arthur, il en est mort. Il en est mort et on ne sait pas où il est passé. Mannaggia miseria, Arturo, c'est pas ça, oh, Arturo. Alors mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis? Dites-le, dites-le à votre bon petit directeur, hein? Aucun nous ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cette Arthur de merde. Et le directeur Furax attrapait les anthrax à l'idée qu'ils se perdent. On a fait venir un neveu qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien, l'ancien est pas nouveau parce que nouveau, ça tourne les enfants, ça tourne. Arthur, es-tu là?
Oui, les gars.
Arthur, où t'as mis ton corps?
J'ai plus de corps, les gars.
Arthur, as-tu du cœur?
Belote, les gars, rembolote, les disques de terre.
Et comme ça, on a compris que ce putain d'Arthur était au paradis. Ma che sta facendo, Barrile? Vedi qua che le faccio vedere, Arthur. Mannaggia miseria, ma che sta facendo? Oh!
Vous aurez peut-être reconnu Arthur, où as-tu mis le corps? Une question et une chanson de Serge Reggiani. Le choix de ce premier morceau de musique nous a été imposé. Enfin, imposé n'est pas exactement le terme, mais disons qu'avec le personnage qui erre entre les pages de son nouveau roman, on ne pouvait pas tout à fait faire autrement. Notre invité de la semaine est Patrick Péchereau, un auteur discret à l'écriture élégante qui sort à la noire chez Gallimard pour tout bagage, d'après une chanson de Léo Ferré que nous écouterons bien entendu après son interview. Le roman, lui, il revient sur l'année 1974 en compagnie de 5 jeunes idéalistes qui se voyaient militants, idéologiques, activistes, envieux de ce qui se passait en Espagne et qui ont commis bien malgré eux l'irréparable, à savoir abattre une victime innocente lors de l'une de leurs actions. De nos jours, Arthur, l'un des malheureux protagonistes, enfin, moins malheureux que celui qui a été tué, mais malheureux quand même, voit ce passé que tous ont tenté à leur manière d'oublier, refaire surface. Des photos et un récit qui lui sont adressés comme si un maître chanteur ou un brave vengeur voulait remuer tout ça. Alors, Arthur part en quête, non pas de rédemption, quoique, mais de ses anciens camarades, pour tenter de démêler à la fois tout ça et d'affronter enfin ce qui n'a pas été affronté en son temps. Je n'en dis pas plus. J'ai parlé de l'écriture. Le récit, lui, est éclaté façon puzzle et propose plein d'instantanés qui sont autant de clichés argentiques. De ceux, vous savez, qui figent le passé et qui abordent la mélancolie. C'est chez Gallimard où l'auteur a déjà une bibliographie conséquente que je vous invite à découvrir. Place maintenant à cette interview réalisée par téléphone qui explique bien des choses et aussi pourquoi, par moments, ça grésille un peu comme si on était sur écoute. Ça, on a l'habitude et ça nous embête.
Mr. Reddit, I'd like you to believe something. I hated my life. Only I wasn't strong enough to get away from it. All I could do was dream of some big payoff that would let me quit the whole racket. The Swede was my chance to make my dream come true. I could only be alone with him for a few hours. The Colfax was always there. I thought it was hopeless. And then suddenly my chance came.
You mean the burning down of the halfway house?
Colfax sent me to tell the others what had happened, and that they were to meet at the farmers instead. I went to Blinky Franklin first, and then to Dum Dum. I saved the Swede till last. It was nearly 2 a.m. when I got there.
Mm-hmm.
Patrick Pêchereau, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a changé entre l'auteur de Tiouraille en 96 et celui de Pour tout bagage en 2022?
Ce qui a changé, ce sont les années qui ont passé. Elle commence maintenant à faire un joli paquet. Ce qui a changé aussi, c'est mon travail. Tiouraille était un premier roman, Pour tout bagage et le dernier en date. Donc évidemment, au fil de ces années, je n'écris plus de la même façon. On essaye tous quand même un peu de s'améliorer au fil du temps. Et puis ce qui a changé aussi, c'est l'époque et la façon que j'ai de la percevoir probablement.
Avec Thierry Criffaut, vous êtes peut-être l'auteur à gouaille le plus mélancolique. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ah, ce cher Thierry, je ne sais pas si nous sommes les auteurs à gouaille les plus mélancoliques, mais en tous les cas, moi je fais une différence entre la mélancolie et la nostalgie, au sens où la nostalgie possède, du moins c'est comme ça que je l'aperçois, une dimension de regret de ce qui existait avant. Et à trop être nostalgique, je pense qu'on en vient à tomber dans le « c'était mieux avant », ce qui n'est pas mon cas. La mélancolie n'a pas cette dimension, on peut être mélancolique sur le présent. Et en tous les cas, si elles ont un point commun, c'est un certain sentiment que marque le temps qui passe, sans forcément regretter celui qui n'est plus. Mais le temps passé par rapport à soi-même, c'est effectivement la perte de la jeunesse, la perte de l'innocence, la perte de l'enfance, la perte des gens qui vous ont accompagné, parce que plus le temps passe, plus les rangs se clairsèment, ce qui influe sur le sentiment de mélancolie qui est chez moi, je pense, un peu inné.
Débrouillard de la butte à l'homme à la carabine, vous avez eu une période année 1920. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette époque et quel matériau vous plaisait le plus pour vos intrigues ?
Pour cette époque, pour moi, a commencé, en tous les cas, ma façon de l'aborder par un petit jeu autour d'un personnage qui m'était cher, qui était Nestor Burma. Donc j'ai voulu créer une sorte de double de ce Nestor Burma qui était tout à fait lui sans être lui. Voilà. Donc j'ai pris comme référence l'année 1926, qui était l'année où Léo Mallet est monté à Paris. Voilà, ce qui a justifié ce choix précis de la période années 20. Mais cela dit, c'était une période quand même qui était particulièrement intéressante, puisqu'on sortait de la guerre de 14, qui est un de mes sujets d'intérêt aussi, un de mes centres d'intérêt. Et on croyait aller vers une époque nouvelle, porteuse d'espoir, etc. Et puis quelques années après, on a vu que c'était pas tout à fait le cas, mais c'était une époque aussi qui était très marquée par l'émergence de mouvements artistiques qui n'auraient peut-être pas été les mêmes sans la guerre de 14. C'est l'effervescence autour du jazz en France et ailleurs en Europe et extra-Europe, c'est la naissance du surréalisme. L'expressionnisme allemand existait avant, mais bon, là il a complètement explosé. Voilà, il y a eu beaucoup d'explosions artistiques qui se sont manifestées après la guerre de 14. Et puis aussi politiquement, c'est l'époque d'un certain nombre de grands idéaux et notamment l'époque du mouvement anarchiste en pleine effervescence. Voilà, c'est un peu tout ça qui m'a intéressé, mais disons que je suis intéressé par la période de l'entre-deux-guerres parce que là, beaucoup plus tardivement, l'apparition d'un cinéma qui m'est cher. Vous parliez de la gouaille, donc il y a tout ce cinéma populaire de l'entre-deux-guerres qui a pu commencer avec le cinéma muet et les sérioles de feuillade et des choses comme ça, jusqu'au film Carnet, Prévert, Grémillon, Duvivier, etc.
Oui, alors, hasard des coïncidences, nous interrogions il y a 15 jours Xavier Boissel pour Sommeil de cendre, dont l'action se situe en 1974, même si lui se focalise sur certains remugles politiques, le sac et puis la mort de Pompidou. Qu'est-ce qui vous a motivé pour explorer cette année ?
Cette année précisément, alors les années 70, moi j'ai l'âge de mes personnages, hein, là en l'occurrence, et cette année-là précisément, eh bien c'était l'action des Garry, qui était un groupe à forte connotation anarchiste, les groupes d'action révolutionnaire internationale, qui avaient à Paris enlevé un banquier espagnol pour demander l'arrêt des exécutions capitales en Espagne qui étaient perpétrées notamment sur des prisonniers politiques par garrotage, par strangulation. L'un d'entre eux, Puig Antich, qui était un militant anarchiste espagnol, venait d'être garrotté avec un autre de ses camarades. Et donc les Garry se sont créés à ce moment-là. C'était un groupe anarchique qui mêlait jeunes Français et jeunes Espagnols. Voilà, ça a dû se créer dans la région du sud de la France où les enfants des républicains espagnols étaient très présents. Et donc j'ai suivi, moi, quand j'avais l'âge de mes personnages, l'épopée de ces Garry qui m'avaient frappé, marqué, intéressé, voire séduit. Voilà, donc j'ai éprouvé le besoin, à l'âge que j'ai aujourd'hui, de me replonger dans ce qui fut une partie de ma jeunesse.
À travers votre œuvre, l'anarchie, c'est une idéologie qui semble vous tenir à cœur. Pourquoi ?
Oui, bon, vous faisiez référence à la saga des brouillards avec Nestor, etc., qui était plongé dans ce milieu-là. Il y a eu l'homme à la carabine avec la bande à Bono et André Soudy. Aujourd'hui, il y a ce dernier roman. Entre temps, il y a eu la Commune de Paris avec une plaie ouverte. Alors pourquoi ça me tient à cœur ? Bah parce que c'est une forme de pensée une forme de pensée qui m'a accompagné, qui fait partie de ma formation, de mes années jeunesse. J'en garde un certain nombre d'approches. Notamment sur la place de l'individu au regard de la masse, la méfiance vis-à-vis de tous les systèmes totalitaires, quels qu'ils soient de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Voilà, et puis une façon de penser, de raisonner un peu, je dirais, en dehors des clous et en dehors des courants. Voilà, donc chacun a sa formation, hein. On est tous faits d'éléments divers, on est comme des arlequins. Moi, dans mon costume d'arlequin, il y a des morceaux de tissu qui sont effectivement noirs, c'est-à-dire la couleur de l'anarchie, mais je ne me définis pas comme un anarchiste. Voilà, simplement, je pense que c'est une forme de pensée dont des éléments sont intéressants à prendre, à reprendre, à travailler, à inclure dans une façon de voir le monde.
Alors, dans Pour tout bagage, vous portez un regard critique sur les passions idéologiques de la jeunesse. Pourquoi ?
Oh, parce que la jeunesse et notre jeunesse, ma jeunesse, est très riche en hormones. Hein. Et donc se fait vite embarquer par ses fougues, par ses capacités extraordinaires de conduite à risque, d'indignation, qui peuvent être des choses très positives, mais c'est aussi, je dirais, quelqu'un de jeune est aussi quelqu'un d'extrêmement malléable, parce qu'il n'a pas le passé, il n'a pas le vécu, il n'a pas il n'a pas encore emmagasiné toutes les réflexions que quelqu'un de plus âgé peut avoir emmagasinées. Donc il est parfois quelqu'un de jeune et parfois conduit à s'embarquer, je dirais, un peu tripalement, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, vers des choses qu'il peut regretter par la suite, mais il le fait souvent par générosité et aussi par manque de recul, encore une fois. Donc les idéaux avec des choses comme ça s'en ressentent un peu. Moi, quand j'étais jeune, on essayait de faire croire, quand je dis on, pas moi, mais on a essayé de faire croire à des gens de ma génération l'impression que le paradis, c'était tantôt la Chine de Mao, tantôt l'Albanie d'Evne Rodja, tantôt Cuba de Fidel Castro, tantôt pour certains même ce qu'ils appelaient le Kampuchea démocratique, hein, c'est-à-dire le Cambodge de Pol Pot. C'était des horreurs qu'on nous présentait comme des paradis, mais quand on est jeune, voilà, on peut vite s'embarquer vers des choses qui ne sont pas tout à fait ce qu'elles paraissent être par manque de recul. Voilà, donc que des idéaux aient été abandonnés, je trouve ça bien. Que des idéaux aient été trahis, là c'est différent. Voilà, entre l'abandon et par un peu plus de clairvoyance et la trahison, c'est-à-dire le retournement de veste, là il y a quand même il y a quand même plus qu'un pas.
Oui, parce qu'il faut dire que donc dans votre roman, c'est un roman contemporain qui se replonge sur le passé et la trahison, on s'y confronte.
La trahison, je ne sais pas si beaucoup de mes personnages ont trahi. Là. Je pense qu'ils ont tous suivi une voie différente. Ils sont cinq, hein, enfin cinq et demi, avec la petite sœur qui, on verra dans le livre, tient, hein, la petite sœur de l'une d'eux tient un rôle important. Mais ils ont tous suivi des voies différentes. Ont-ils trahi ? Pour moi, non. Qu'est-ce que c'était leurs idéaux ? Ils ont, c'était de changer les choses. Bon, ils se sont colletés à la dureté. Ils ont commis un acte par erreur, mais ils ont commis un acte irréparable qui a entraîné la mort d'un homme. Donc, ça force à réfléchir. Est-ce que ces idéaux valent la mort d'un homme ? Là, on rentre dans le débat de la fin et des moyens, hein, cher à des gens comme Albert Camus, voilà, qui lui aussi a fréquenté la pensée anarchiste. Donc, à mon sens, ils n'ont pas trahi. Ils ont abandonné des choses. Ils ont perdu des choses. Ils ont perdu leur innocence. Mais perdre son innocence n'est pas une trahison. Certains peuvent, certains d'entre eux d'ailleurs, peuvent mal le vivre. Aucun ne le vit bien, la perte de cette innocence. Mais ont-ils trahi ? Pour moi, non. Ils ont évolué. Quelqu'un qui évolue ne trahit pas forcément. Est-ce qu'on est tous les mêmes à 17 ans et à 70 ans ? Je pense pas. On meurt et on renaît périodiquement. On n'est pas le même à 17 ans qu'à 7 ans, on n'est pas le même à 70 ans qu'à 20 ans, c'est évident. Donc, ce sont des trajets individuels, hein, c'est pas autre chose qu'une série de trajets individuels. Je vois pas de traître à l'idéal parmi eux. Non, vraiment non. Ils ont abandonné des choses, voilà. Ils ont abandonné les grands idéaux, voilà, simplement. Alors, ils sont comme ça, comme la vie les a fait. Trahir, c'est presque conscient. Aucun n'est donneur de leçons. Il y a effectivement des gens qui ont pensé une certaine façon quand ils avaient 20 ans, qui ont pu donner des leçons avec toute la fougue de la jeunesse à ce moment-là, et puis qui à 50 ans ont complètement changé d'avis et qui donnent des leçons dans l'autre sens. Bon, là il y a quand même un peu de trahison parce que voilà, il faut rester modeste. Mais eux non, je crois que la vie les modèle et c'est ainsi. Ils vont vers leur destin sans trahir quoi que ce soit. Ils bougent, ils évoluent, ils regrettent. Ils sont comme tout un chacun. Je ne les vois pas comme des traîtres à quoi que ce soit.
Pourquoi avoir choisi le présent pour raconter ce fait divers et pas s'être contenté de nous plonger dans les années 70 ?
Ben justement, c'était pour avoir cette vision différente entre les années 70, donc quand ils sont jeunes, avec toute l'épopée qu'ils regardent de loin, hein, l'épopée des Garis, parce qu'eux n'en font pas partie, ils sont quand même plus jeunes que les Garis encore, donc voilà, ils regardent ça comme on regarde des héros d'aventure, comme on regarde l'épopée de gens qui sont en marge de la loi et qui défient un peu le monde entier et qui luttent pour la bonne cause. Le fait d'en parler aujourd'hui avec le regard et les mots d'un narrateur qui a donc aujourd'hui mon âge, c'est-à-dire à peu près 70 ans, permet d'avoir ce recul distancé et permet d'exprimer la mélancolie que le narrateur peut ressentir avec le temps qui a passé, avec l'évolution des choses dont il ne comprend plus tous les mécanismes et il se demande en permanence si c'est lui qui devient un vieux con ou ou s'il y a un certain nombre de phénomènes sociaux, sociétaux qui sont pour le coup là à côté de ces idéaux de jeunesse, d'où la référence avec la ZAD que j'ai placée à dessein sur le lieu d'implantation d'éoliennes, puisque je fais partie de la génération des gens qui manifestaient très souvent contre les centrales nucléaires en réclamant, après avoir lu notre cher Reiser dans Charlie Hebdo ou La Gueule Ouverte, tout ce qui était alternatif au nucléaire, dont les énergies nouvelles, dont les éoliennes. Donc c'est vrai que ça fait bizarre aujourd'hui de voir, lorsque notre génération a manifesté, enfin une partie de notre génération a manifesté en réclamant du solaire, des éoliennes, du nucléaire et de choses comme ça, de voir aujourd'hui des gens qui rejettent avec la même fougue et ce pourquoi nous avons manifesté. Donc on se dit, voilà, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je suis devenu un vieux con parce que je comprends pas? Ou est-ce que c'est ces mouvements de refus aujourd'hui qui sont complètement à côté de la plaque? Donc il y a aussi cette difficulté parfois à appréhender les choses. Alors ça vous remet à votre juste place, hein, c'est-à-dire ça vous remet un peu de modestie dans la tête.
Vos cinq personnages sont des personnages qui sont marqués par la culpabilité de ce qu'ils ont commis. L'écrivain Patrick Pechereau, il leur donne quoi comme absolution?
Oh là, Patrick Pechereau, il a pas vocation à donner des absolutions. Je parle pas de col romain. Voilà. Mais en tous les cas, il ne les juge pas. Alors c'est peut-être une forme d'absolution. Il est pas là pour. Moi, je suis pas là pour juger. Hein. Pour reprendre un peu, comment dire, une approche de ce cher commissaire Maigret, il ne jugeait personne, jamais, y compris quelqu'un qui était coupable au sens de la loi, voire de la loi plus de la morale, voilà, et pas de jugement. Donc moi je les absous tous, hein, et je reprendrai un vers de François Villon, et plus à Dieu que tous nous veuillent absoudre.
Enfin, on est à la radio, alors on écoute quoi comme musique ?
Bien sûr, Léo Ferré, puisque le titre de mon roman Pour tout bagage est emprunté à cette magnifique chanson de Léo qui s'appelle 20 ans. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps, etc. Et puis, j'aimerais bien un petit Simon et Garfunkel, Old Friends, alors qui est antérieur à l'année 74, hein, puisqu'il était sur l'album Sound of Silence de 66. Si ma mémoire est bonne, mais dont les paroles collent assez bien. Hein, Old Friends, voilà, c'est quelqu'un qui se projette sur ce qu'il sera à l'âge de 70 ans, c'est-à-dire à peu près à l'âge exact à peu près exact, ça colle pas trop, mais à l'âge de mes personnages et à mon âge, et il imagine ce qu'il sera à 70 ans avec ses vieux amis. Voilà, il les imagine, il s'imagine avec un vieux pote à lui assis sur un banc comme deux serres livres et avec le temps qui passe sur leurs épaules, hein, et il dit c'était le temps des confidences, c'était le temps de l'innocence, ce que j'ai voulu exprimer dans mon bouquin. Et puis à ce personnage de 70 ans, il lui reste des photos à lui aussi, des photos pour préserver la mémoire de ses vieux compagnons qu'il évoque dans la chanson.
Eh bien, Patrick Pechereau, on va écouter tout ça. Je vous remercie. Je rappelle le titre de votre roman, Pour tout bagage, dans la très classieuse collection La Noire chez Gallimard. Merci à vous.
Merci.
Tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est batte, ça va tout seul, quand elle est moche, on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu, on bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. tout bagage. On a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis l'on sort. On va griller une cigarette. L'amour, ça se prend et puis ça s'achète. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout, c'est jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul, qu'on ait été chouette ou tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime, et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans.
C'était pour tout bagage de Léo Ferré, la mélancolie version Patrick Pechereau. Vous écoutez Calibre 58 sur Radio G au 101.5 FM. C'est maintenant au tour du voyage en exergie de Luc, en compagnie d'un certain Benny Grissel, d'un non moins certain Deon Meyer, un auteur hypnotique, comme vous allez vous en rendre compte. N'est-ce pas, Luc ?
Il est agréable de traquer longtemps un animal que l'on veut absolument abattre, d'être semé, joué, déchoué en fin de journée, tout en s'obstinant à le chasser, sachant à chaque échec que tôt ou tard la chance viendra et que l'on obtiendra ce que l'on cherche. Mais il n'est pas agréable d'être limité par le temps pour descendre son coudou, pour le manquer peut-être, ou pour même ne jamais l'apercevoir. Ce n'est pas la bonne façon de chasser. Ernest Hemingway, Les vertes collines d'Afrique. Voilà l'exergue du roman de Deon Meyer, La proie. Un ancien membre des Hawks, le département de police criminelle sud-africain, reconverti dans la protection personnelle, est retrouvé mort après avoir été défenestré du Robos, le train le plus luxueux du monde. Benny Grissel et Vaughn Cupido sont en charge de l'enquête. Dans le même temps, à Bordeaux, Daniel Barrett, sniper de l'ANC à la retraite, vit clandestinement, reconverti dans l'ébénisterie, en espérant qu'une chose, qu'on ne le retrouve pas. Mais voilà, dans les polars, le passé a une fâcheuse tendance à ressurgir quand on s'y attend le moins. En Afrique du Sud, c'est le chaos politique, et c'est un ancien compagnon d'armes qui contacte Daniel Barrett pour lui demander d'abattre une personnalité d'Afrique du Sud pour remédier à la situation catastrophique du pays. La cible, celui qui va devenir la proie, il ne la connaît pas. Mais Barrett est réputé être tenace. Il accepte la mission et il va être entraîné dans un périple à travers l'Europe, tentant d'échapper aux services secrets sud-africains, mais aussi aux Russes, jusqu'au jour, à l'heure, à la minute et même à la seconde où il recevra l'ordre d'abattre la cible. Résumé comme cela, le roman de Deon Meyer pourrait passer pour la énième version de la traque dans les polars, avec cette particularité dans celui-ci qu'il s'agit d'une double traque, celle de la proie guettée par Daniel Barrett et la traque de Daniel Barrett lui-même. Mais ce ne serait qu'une déclinaison du genre, une complication supplémentaire comme on dit en horlogerie. Et cela n'apporte rien au genre. Non, l'intérêt du roman de Deon Meyer, c'est le background, l'arrière-plan politique. Le sujet de la proie, c'est l'Afrique du Sud contemporaine. Deon Meyer prend pour cible Jacob Zuma, président de la République, désigné expressément dans le roman. S'il a été membre de l'ANC et emprisonné comme Nelson Mandela à Robben Island, cela ne l'a pas empêché de devenir plus qu'impopulaire lors de sa présidence. Il est accusé d'agression sexuelle, de corruption et a conduit son pays à la faillite. On sent au travers du roman que Deon Meyer est exaspéré de voir son pays, qui portait tant d'espérance, perdre son âme. Précision qui a son importance, le roman a été publié en 2018, donc écrit encore sous la présidence de Jacob Zuma. Deon Meyer choisit la forme du polar, mais avec une préoccupation unique, écrire un brûlot contre la caste politique de son pays qui fait ressembler la gouvernance de l'Afrique du Sud à celle d'une république bananière. La proie, ça peut rappeler par certains aspects les romans de John le Carré, l'intervention des services secrets ou la présence des Russes, par exemple. Stylistiquement, on est dans la galaxie d'auteurs comme Henning Mankell, ce qui ne gâche rien. Il y a une vraie densité de l'écriture et Deon Meyer ne se croit pas obligé d'user de subterfuges pour entraîner le lecteur sur de fausses pistes. Alors pour revenir à l'exergue, l'extrait des Vertes collines d'Ernest Hemingway, grand chasseur devant l'éternel s'il en est, on prend conscience de la subtilité à laquelle a eu recours Deon Meyer pour le choisir. Là où Hemingway se comporte en épicurien et cherche simplement son plaisir, Deon Meyer plaque par-dessus le sens premier de l'extrait du roman d'Hemingway une strate supplémentaire. En politique, pour atteindre son objectif, il y a un impératif catégorique, il faut du temps. Deon Meyer a déjà une longue bibliographie derrière lui, plus de 15 romans, dont une série avec un duo d'inspecteurs, Benny Grissel et Vaughn Cupido, La Proie, en fait partie. Il a fait une incursion dans le roman post-apocalyptique L'année du lion, mais cette expérience m'a semblé peu convaincante. Il est initialement publié en France par les éditions Seuil, mais depuis 2018, on le retrouve dans la série noire chez Gallimard. Et c'est une lecture hautement recommandable. Le roman s'appelle La Proie, il est de Deon Meyer et il est publié dans la série noire aux éditions Gallimard.
Merci Luc pour ce voyage en exergue en compagnie de Deon Meyer, mais aussi à sa façon d'Ernest Hemingway. Alors, voyage en exergue, c'est pas très facile à dire, hein. Je sais pas, il va falloir que je m'entraîne. Je vous avais bien dit que c'était hypnotique cependant. Si on veut être complet, on dira que si Deon Meyer est maintenant chez Gallimard, c'est parce qu'au jeu des chaises musicales, l'auteur a choisi de suivre son éditrice. C'est beau, hein, la fidélité. Mais si vous écoutez bien cette petite musique qui monte, vous comprendrez que c'est maintenant le moment de passer à la partie débat DVD de l'émission. Et cette semaine, nous vous proposons Gloria de John Cassavetes avec Gina Rowlands. Luc nous en dresse le pitch.
Un comptable pour la mafia a fait des révélations au FBI. Il a tout noté dans un cahier. La mafia l'a appris et envoie un commandant décimer la famille de Jack Dawn au fusil à pompe. Gloria Swanson, Gina Rowlands, une voisine, sonne à la porte, juste avant que les tueurs n'arrivent. Jack lui confie son fils Phil de 8 ans avec le fameux cahier. Mais Gloria Swanson est une ancienne call girl qui a eu pour amant l'un des parrains de la mafia. Cette dernière découvre rapidement que Gloria a récupéré le jeune Phil et une poursuite impitoyable va s'engager, dans laquelle Gloria ne sera pas la dernière à manipuler le flingue avec une grande habileté, il faut bien le dire.
I asked you once if I could be your mother. You didn't want that.
You want to be my mother? You could be my mother. I don't have any mother. My mother. So you could be my mother. Why would you want to be my mother?
I don't know. Just want to clear things up.
You're my mother. You're my father. You're my mother. You're my whole family. You're even my friend, Gloria. You're my girlfriend, too.
Well, I'd like to be family.
You think they're gonna catch us, huh?
I don't know. Probably. I can't beat the system.
What's the system?
System? I don't know.
Then how do you know you can't beat it?
Well, not too many people have.
Then how some people did?
Yeah, I think so. I don't know.
Parlons de Gloria de John Cassavetes avec Gina Rowlands. Alors, Luc, tu as tout dit sur cette intrigue qui est assez minimaliste. C'est une espèce de road movie dans une jungle urbaine. Je crois que tu avais quelques mots à dire justement sur cet hommage de John Cassavetes à New York.
Bah, oui, Cassavetes filme magnifiquement bien New York. On est dans le Bronx, hein, le film démarre dans le Bronx. Il va faire une incursion dans Manhattan, il va descendre donc vers Manhattan, vers le cœur de Manhattan. Mais Cassavetes filme New York, donc un New York des années 70-80, qui était un New York très abîmé, complètement qui partait en quenouille, que les municipalités suivantes au début des années 2000 vont redresser. Mais il y a une manière de filmer chez Cassavetes, de filmer la ville, de filmer les voitures, de filmer les feux rouges, de filmer les bâtiments, qui est vraiment, à mon avis, extraordinaire et qui nous font vivre New York complètement.
Oui, alors on vit New York complètement et on vit au rythme de ce chassé-croisé entre une femme, un enfant qui n'est pas le sien et des tueurs de la pègre. Comment expliquer que dans un monde de violence, on ne peut échapper à la violence que par la violence ?
Bah, on est là aussi, c'est peut-être un des aspects, c'est peut-être l'aspect le moins apparent de New York, c'est qu'on est dans la jungle urbaine. Et donc dans la jungle, et ben c'est la loi du plus fort qui règne, quoi. Et comment opposer autre chose que la violence à ces gens qui n'hésitent pas à massacrer une famille à coups de fusil à pompe? Ces gens ne peuvent pas entendre raison autrement que à coups de balle et à coups de à coups de fusil. Enfin, c'est vraiment c'est le mode. De toute façon, ces gens-là n'ont qu'un mode, et avec une particularité dans Gloria qui est vraiment... c'est que l'héroïne, Gloria Swanson, fait partie de la pègre. Elle est du milieu, c'est une ancienne call girl, et donc et elle a été, elle a vécu avec un mafieux. Donc, je veux dire, on ne sort pas trop de... C'est pas la pègre contre la ville, c'est la pègre contre la pègre, même si Gloria Swanson essaye de s'y racheter une conduite.
Oui, alors là, je trouve que tu vas un peu loin sur cette histoire-là, parce que c'est une des interrogations du film, c'est comment est-ce qu'elle a pu s'en échapper. Parce que en fait, elle est dans un appartement qui est limite miteux, elle est là pour prouver qu'en fait, avoir appartenu à la pègre ou appartenir à la pègre, ça ne profite pas. Quand on dit à qui profite le crime, il profite avant tout au sommet de la pègre. Elle, oui. Elle vit dans un petit appartement avec un chat, à un étage un peu, j'allais dire, miteux. Et ses voisins, donc, c'est aussi un couple avec leurs enfants et une belle-mère. Et le père et lui comptable pour la pègre. Mmh. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que en fait l'argent, il en profite pas non plus parce qu'il est dans un petit appartement. Voilà, donc mmh. Et elle surtout, on se rend compte que si elle a fait partie de la pègre, eh ben elle a réussi un peu. Alors je sais pas si elle en fait encore, si elle en fait encore partie, mais elle a réussi un petit peu à s'en extraire.
Oui, mais avec deux éléments. Effectivement, elle vit dans un quartier qui est au-dessus de Harlem, qui est au nord de Harlem, qui s'appelle le Bronx. Et d'ailleurs, on voit le, je crois que c'est le Shea Stadium, juste à la fenêtre, le, ce grand stade de baseball. Mais elle va descendre, mais elle a une double vie. Quand elle fuit avec ce gamin, elle va dans son deuxième appartement, qui est alors là une espèce de bonbonnière rose, appartement effectivement de cool girl d'ailleurs, et donc elle a deux, son ancienne vie est encore présente, hein. Elle l'a pas complètement quitté. Ce deuxième appartement va lui être utile pendant un tout petit moment, mais elle a quand même ce deuxième appartement.
Mmh. Oui, c'est vrai, j'avais oublié cet appartement. Une des choses aussi qu'on voit dans le film, c'est l'importance du moyen de locomotion, parce que on les voit en taxi, on les voit en métro, oui. On les voit en bus, ils essaient même de prendre l'avion, et on voit aussi l'omniprésence des tueurs et aussi un peu la corruption de la police et la corruption de la population, puisque on a ces deux personnes qui fuient dans une ville et qui sont toutes seules au milieu de plein de gens. On n'est jamais plus seul que quand on est aux prises avec la pègre, semble dire John Cassavetes. Et alors que tout paraît magnifique à l'extérieur, eh ben c'est que tristesse à l'intérieur.
Mmh. Avec une vision peut-être un peu à la fois romantique de la ville, mais aussi, qui me semble, mais aussi improbable, parce que les tueurs retrouvent Gloria Swanson, donc Gina Rowlands, la retrouve en deux secondes, quoi. Enfin, elle peut pas faire un pas sans qu'ils surgissent, sans qu'ils apparaissent, où qu'elle soit, même quand elle va manger dans un espèce de boui-boui perdu, les tueurs débarquent, enfin immédiatement. Donc là, il y a quelque chose, et on est à une époque où il n'y a pas de téléphone portable, hein, il n'y a pas de traçage possible ou autre. Donc là, il y a des choses qui semblent improbables. Et improbable d'autant plus dans une ville aussi particulière que c'est qu'est New York, qui est gigantesque. Et effectivement, tu le soulignes bien, à New York, on se déplace en taxi, en bus ou en métro. On se déplace pas autrement. Enfin, on peut pas faire autrement. Ouais. Mais c'est effectivement. Michel Sardou a chanté les villes de grande solitude. Eh ben oui, je pense que New York, c'est une ville de grande solitude, oui. Ou du moins, ça l'a été. C'est peut-être plus tout à fait le cas aujourd'hui.
Oui, alors moi, pour compléter ce que tu dis sur le fait qu'ils ne peuvent pas se déplacer sans qu'ils aient des tueurs au basque, ça veut dire aussi l'importance de la pègre dans la ville. C'est-à-dire que chaque personne que tu croises peut appartenir à la pègre et que la communication, elle passe très très bien. C'est-à-dire que on comprend pourquoi les flics ne peuvent pas y arriver. Voilà, donc il y a ça. Pour finir sur Gloria, on n'a pas parlé de Gina Rowlands vraiment beaucoup. C'est la femme de John Cassavetes. Elle a tourné, je crois, dans 17 films de Cassavetes. Elle a commencé par Shadows, où elle est non créditée au générique. Là, le film, c'est à la fois un film d'amour à New York, mais c'est aussi un film d'amour de John Cassavetes pour sa femme. Et il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que il la filme, alors je dirais pas au crépuscule de sa beauté, ce n'est pas vrai, évidemment, puisqu'il montre tout le contraire, mais il rend hommage à une certaine beauté fanée, dans le sens où elle, en tant que call girl, en tant que maîtresse du parrain, elle était remplacée, on l'imagine, par quelqu'un de plus jeune qu'elle, et donc de plus belle qu'elle. Voilà. Et ça, c'est quand même assez formidable chez un réalisateur. Tu en penses quoi ?
Ah ben moi je pense que d'une part le geste d'amour de Cassavetes pour Gina Roland c'est immense. Il a un art de la filmer qui est indéniable, mais le vrai problème de Gina Roland, c'est que c'est Gina Roland et qu'elle est magnifique. Enfin, c'est ça son problème, c'est qu'elle joue extraordinairement bien, elle joue l'émotion, alors peut-être pas dans la dernière partie du film, où là c'est un peu sucré et un peu too much, on pourrait dire, mais dans la majeure partie du film, elle a un charisme qui est extraordinaire, et on comprend que John Cassavetes en soit amoureux, ça paraît tellement évident.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce film, à part que il est un peu langoureux et parfois un peu lent?
Moi, je pense que il est lent. Enfin, il est tué. Ce film, c'est dommage. Il est tué par sa fin qui est un happy end, mais vraiment très sucré, quoi. Vraiment sirupeux. Alors que la première partie du film est quand même assez magnifique. Il aurait pu se terminer sur ce gamin qui prend le train et qui s'en va. Il aurait très bien pu s'arrêter à ce moment-là. Gina Roland sans Calamity Jane, c'est quand même assez foudroyant. Donc non, le film, c'est un film à voir. Enfin, il faut voir Gloria. C'est indéniable. C'est un grand film d'une grande comédienne, d'un grand metteur en scène et sur une grande ville, quoi.
Et oui, Calamity Gloria. C'est Gina Roland donc dans Gloria de John Cassavetes. Ça ressort en combo Blu-ray DVD chez Wildside. Le débat DVD, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau film. Merci Luc.
Eh bien écoute, merci. Merci Julien et puis bonne fin de journée. Au revoir.
Brève en série. Nos amis de 813, qui publient la revue des littératures policières, viennent de sortir leur numéro 143 et ils s'intéressent de près dans un dossier central au polar québécois. L'Archipel réédite chez Archipoche, Hypécresse, Danger immédiat de Len Dayton. Vous connaissez peut-être l'adaptation cinématographique de ce roman d'espionnage par Sidney G. Fury avec Michael Caine. Le roman est maintenant adapté en série sur Prime Video et on aimerait que cette adaptation sorte en DVD un jour. Toujours rayon adaptation, mais cette fois-ci d'une œuvre, celle de Paco Ignacio Taibodos avec son héros détective Hector Bello Ascaran Shane, c'est sur Netflix. Et là aussi, on aimerait pouvoir un jour la découvrir en DVD. Philippe Garnier vient de faire paraître en 3 volumes chez The Jokers le label cinéma, générique la vraie histoire des films. L'auteur nous trimballe à travers un certain cinéma de 1940 à 1970 dans des ouvrages richement illustrés sur un papier glacé. Glacé, elle ne l'est pas. Enola Holmes revient pour une 7e aventure en bande dessinée chez Glénat. La petite sœur du grand Sherlock nous emmène cette fois-ci dans une aventure intitulée « Et la barouche noire ». Enfin, ce week-end, le festival sans nom fête ses 10 ans. C'est à Mulhouse, sous le haut parrainage d'Henri Lovenbrook. Parmi les invités, citons Max Monnehet, porte-étendard des Louvres du Polar que nous avions interviewé. Voilà, Calibre 58, c'est fini pour cette fois-ci. La semaine prochaine, c'est « Entre les pages ». N'oubliez pas nos amis imaginaires le mardi soir à 21h, une semaine sur deux. On se quitte en musique, Simon & Garfunkel. Bye bye!
Sat on their park bench like bookends. Newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friends. Old friends, winter companions, the old men, lost in their overcoats, waiting for the sun. Sounds of the city sifting through trees settles like dust on the shoulders of the old friends. Can you imagine us years from today sharing a park bench quietly? How terribly strange to be 70. Memory brushes the same years, silently sharing the same fear. Time it was, and what a time it was, it was. A time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you. With you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence.
Radio G. www.radio-g.fr